Salut à tous et à toutes, bienvenue sur lebigossa.com, vous écoutez le podcast numéro 91. Aujourd'hui, j'ai un invité, il s'appelle Romain Cornu. Cherchez pas, vous le connaissez pas, ce n'est pas un pilote, ce n'est pas un journaliste, c'est pas un homme d'influence dans le monde de l'industrie du cross US ou même mondial. Cela n'a absolument rien à voir. Mais bon, pendant le confinement, on vous avait promis de faire des podcasts un peu différents, de vous faire rencontrer des gens et des personnes différentes. Romain Cornu, bonjour, bonsoir, peu importe, hein, on ne sait pas quand est-ce que ce podcast va être écouté. Romain, comment tu vas ?
Ça va très bien, merci Stéphane.
Alors, comme je disais, personne ne te connaît sur lebigossa.com, donc c'est pour ça qu'on fait ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter ?
Bien sûr, alors moi je m'appelle Romain Cornu.
Je l'ai dit ça.
Mais il faut le redire.
D'accord. Ok, d'accord.
Au cas où. Donc je suis chef pâtissier pour un gros groupe de restauration sur Las Vegas et dans le monde. On a des restaurants un peu partout. Et je m'occupe de tout ce qui est recettes, tout ce qui est de tous les pâtissiers de chaque restaurant. Je suis un peu leur chef à eux.
D'accord. Le groupe, il s'appelle
Akasan.
Akasan. Donc c'est un des plus gros groupes sur Las Vegas.
Voilà, c'est un groupe de nightclub, de dayclub et de restaurant.
D'accord. Pâtissier aux États-Unis, c'est un peu un cliché.
Tout à fait.
Comment on va revenir, mais un peu loin. Comment t'es arrivé là ?
Alors je suis arrivé il y a 10 ans. Je suis arrivé grâce à mon père qui est venu aux États-Unis il y a plus de 15 ans maintenant. Et il est arrivé ici. Il a ouvert un restaurant à Washington. Washington sur la côte est. Et j'ai décidé un jour, je me suis levé le matin en France et j'ai décidé pourquoi je n'irais pas vivre aux États-Unis également et suivre les traces de mon père.
D'accord.
Et je l'ai appelé, il m'a fait les papiers, je suis arrivé un mois et demi après.
D'accord. On va revenir encore un poil en arrière. T'as quoi comme formation ?
Alors, je suis pâtissier, chocolatier aussi. Je suis maître chocolatier, j'ai fait mes études en France, j'ai fait mon apprentissage en France sur la côte vendéenne.
D'accord, où ça ?
En Vendée.
D'accord, mais il y a une école ?
Saint-Michel-Mont-Mercure, c'est un CFA de pâtissier, de restauration et d'hôtellerie.
D'accord, c'est sur combien d'années ?
Sur 3 ans.
Sur 3 ans ?
Sur 3 ans, voilà.
Donc t'as fait ses bacs, enfin comment
donc,
c'est passé ?
J'ai fini ma troisième, ensuite je suis parti en apprentissage.
D'accord.
J'ai fait 2 ans de BEP pâtissier, donc pâtissier, sucre, viennoiserie, un peu de boulangerie. Et après j'ai fait une mention complémentaire de chocolaterie et je suis devenu au bout d'un an maître chocolatier.
D'accord, mais pourquoi cette passion pour le sucre ?
Je pense que c'est l'art. Je suis un petit peu artiste dans l'âme,
ouais.
Et j'aime beaucoup faire plaisir aux gens.
Uh-huh.
Et je pense que la pâtisserie dans mon métier, c'est vraiment la gourmandise et faire plaisir aux gens.
C'était une vocation ?
Oui.
C'est un truc que tu veux faire depuis tout petit ?
J'ai peut-être aussi suivi les traces de mon père, mm-hmm. qui était pâtissier également.
D'accord.
Donc je suis né un peu dedans en fait.
D'accord, ça tout s'explique alors en fin de compte.
Voilà. Voilà.
Pourquoi le chocolat en particulier ? Enfin, encore une fois, mais j'y connais rien moi. Donc,
Mais tu aimes bien.
Oui, qui n'aime pas le chocolat ? Ça existe, les gens qui n'aiment pas le chocolat ?
Je sais pas. Mais le chocolat, c'est une sorte de médicament.
D'accord.
Ça aide, ça réconforte et ça apaise.
Mm-hmm.
Manger un petit carreau de chocolat tous les soirs, c'est bon pour le corps.
D'accord. Donc ma question, pourquoi spécialiser dans le chocolat ? Est-ce que c'est un cursus
C'est une étape. Je dirais c'est une étape de la pâtisserie.
D'accord.
C'est un plus.
Okay.
Il y a beaucoup de pâtissiers qui ne sont pas chocolatiers. Donc moi j'ai décidé pourquoi pas et ça m'a intéressé, j'ai préféré la chocolaterie à la pâtisserie.
D'accord.
Parce que c'est vraiment de la sculpture, c'est vraiment c'est un savoir-faire quoi, c'est de l'artisanal, c'est vraiment un savoir-faire.
Qu'est-ce que tu me dis donc c'est une spécialité le chocolat, il y en a d'autres des spécialités dans
le pâtisserie ? Il y a le sucre.
D'accord.
Le sucre est une spécialité, la viennoiserie est une spécialité.
D'accord.
Ce qui est très très recherché maintenant parce que beaucoup de gens ne font plus de viennoiserie malheureusement, on l'achète. Et on perd tout ça.
C'est-à-dire, tu peux nous expliquer ?
Ben, les grosses compagnies fabriquent les croissants ou toute la viennoiserie et on a juste à les mettre au four et les réchauffer.
D'accord, donc tu parles de notre boulanger pâtissier du coin ?
Ça arrive, oui.
Donc ça arrive tout.
Donc ça, c'est dommage.
Okay.
Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, il faut aller chercher maintenant les vrais artisans en France, les vrais artisans qui font du croissant, du vrai croissant de A à Z.
D'accord, c'est-à-dire la farine,
ça, machin, la farine, l'eau et
c'est le pas le truc qui arrive en surgelé, tu mets dans le four.
Voilà, exactement.
Et ça, comment on sait ça ?
Je pense que les gens s'en rendent compte au bout d'un moment, parce qu'ils le voient et que c'est toujours la même chose. Là, le croissant est parfait, les choses sont parfaites, alors que l'artisanal, bon, ben voilà, hein, c'est des fois. On n'est pas bien réveillé, on a fait la fête la veille et on se lève le matin et on se trompe un petit peu. Et ça, c'est ce qui fait la différence, quoi.
D'accord. Revenons aux États-Unis. T'as débarqué où quand t'es arrivé?
Donc je suis arrivé à Washington D.C.
D'accord.
Sur la côte est.
Ok. Et
je suis arrivé là-bas. J'ai vécu pendant 7 ans là-bas. C'était très bien. Une ville complètement différente à celle de Las Vegas. Beaucoup plus basée sur la politique. Mm-hmm. Mais beaucoup de Français.
D'accord.
On était à peu près 20 000, je crois. Il y a 20 000 Français dans les alentours de Washington. Donc ce qui est énorme. Et voilà, j'ai beaucoup aimé, mais un jour j'ai décidé de partir, quoi. J'ai eu l'opportunité de venir à Las Vegas et j'ai sauté sur l'occasion, moi et ma femme.
Quel était ton rôle alors à Washington auprès de ton père?
Donc j'ai travaillé dans le restaurant pendant un an, j'ai été pâtissier dans son restaurant.
Donc il y avait un restaurant?
Donc il avait un restaurant, voilà.
D'accord, qui s'appelait comment?
Qui s'appelait Et Voilà.
Qui existe toujours,
qui est à Washington sur MacArthur Boulevard, pour les gens qui veulent
d'accord.
passer des vacances.
Qui appartient toujours à ton père ou...
Qui n'appartient plus, il a vendu d'accord. ses parts. Il a vendu ses parts.
Ouais. Donc tu étais chef pâtissier dans ce restaurant?
Voilà. J'ai chef pâtissier et après j'ai fait ma route, j'ai travaillé pour d'autres restaurants, j'ai fait un petit peu ma route quoi. J'ai pas voulu rester avec mon père toute ma vie quoi.
Ouais. Juste pour des côtés pratiques, parce que souvent on me demande en termes de papiers, de visa, comment t'as fait donc?
Alors moi j'ai eu la chance que mon père a vécu ici avant moi et du coup il m'a fait ma green card.
D'accord.
Donc j'avais moins de 21 ans quand je suis arrivé et il m'a fait ma green card pour que je puisse venir légalement aux États-Unis et travailler directement. Donc j'ai eu ce côté chanceux que beaucoup n'ont pas, mm-hmm. effectivement.
La green card, on rappelle, ceux qui ne savent pas, c'est le permis qui permet de... Enfin, la carte de résident qui permet de travailler et de rester ici.
Voilà, exactement. Il n'y en a pas besoin de visa ou de passer tous les ans, changer. Non, ça, c'est quelque chose qui peut durer 5 ans ou 10 ans. Mm-hmm. Et après ça, on peut avoir le passeport,
d'accord.
la citoyenneté.
De la Vendée à Washington, il y a un sacré... non seulement il y a l'océan entre les deux, mais il y a deux mondes, non?
Complètement. Complètement, complètement.
Tu te souviens des premières fois où...
où je suis venu aux États-Unis?
Ouais, ouais.
Ah, les premières fois où je suis venu aux États-Unis, c'était comme dans les films. Hein. C'était comme dans les films, hein. Les camions de pompiers, la police, c'était vraiment incroyable. Et le pire, c'était quand je rentrais en France, que je me rendais compte que les routes étaient toutes petites. Et quand on a 8 ans et qu'on va aux États-Unis, ça fait bizarre, quoi, ça choque.
Washington, en plus, c'est un endroit un peu spécial, puisque c'est la capitale, c'est, comme tu disais, c'est la très politique, c'est la Maison Blanche,
voilà, la Maison
c'est
Blanche.
Le Coliseum, enfin Coliseum, non.
Le Sénat, voilà. le Capitol.
Le Capitol,
c'est, j'ai Capitol, ça que j'ai c'est vraiment la ville politique des États-Unis. Hein. Mm-hmm. Tout se passe là-bas.
Et c'est très ville en plus, on en reparlera plus tard par rapport à Las Vegas. C'est
très ville, oui, ouais. oui. C'est, tu sors de chez toi, tu es sur la route, tu as les petits bars à côté. C'est un peu comme Paris, j'ai envie de te dire. C'est un peu comme les grandes villes en France.
T'en rêvais des États-Unis ou tu sais que ton père y était déjà, mais est-ce que c'était. Quand tu as dit je m'en vais de France et je vais aux États-Unis, c'était.
Ça a été un rêve, je dirais, après. Ça a toujours été un rêve depuis la jeunesse. On a tous ce petit rêve où on voudrait vivre aux États-Unis ou on voudrait aller aux États-Unis. Mais ça s'est plus déclenché vers mes 18 ans.
D'accord.
Quand j'ai commencé à travailler et me rendre compte que voilà, peut-être qu'il y avait des opportunités ailleurs.
Et en termes de... Ça aussi, c'est une question qu'on me pose souvent. Tu parlais bien anglais quand tu es arrivé ou...
Pas du tout. Je ne savais pas faire la différence entre yes and no. Donc c'était costaud. C'était costaud. Et j'ai pas eu vraiment de chance parce que quand je suis arrivé au restaurant, tout le monde parlait français.
D'accord.
Donc j'ai mis très longtemps avant de parler l'anglais. Et je le parle toujours pas super, super. Hein.
Uh-huh. On dit que les États-Unis, c'est le pays des opportunités. Tu peux nous en parler
Ça l'est.
Ça l'est.
Oui, tout à fait. Je pense que moi, généralement, dans les métiers de bouffe, comme on appelle ici, le métier de restauration, c'est vraiment une opportunité. On peut grandir très vite. Si on s'en donne les moyens, on peut avancer très vite. On peut passer les échelons plus vite que si on était en France.
Pour quelle raison?
Bah déjà la première, parce qu'il n'y en a pas beaucoup.
Il n'y a pas beaucoup de raisons.
Non, on n'est pas beaucoup de pâtissiers non plus comparés en France, par exemple. Et aussi, je pense la raison, c'est parce qu'on est venu ici aux États-Unis pour avoir un rêve. On n'est pas venu ici pour faire du social, entre guillemets. On est venu ici pour avoir un rêve et on se donne les moyens pour l'avoir, quoi. Mmh.
Tu dis qu'il n'y en a pas beaucoup de pâtissiers. Les Américains ne sont pas capables de faire de la pâtisserie?
Les Américains passent le brevet de chef pâtissier, entre guillemets, en 6 mois.
D'accord.
Donc moi, je l'ai passé en 3 ans,
ouais.
en alternance, c'est-à-dire en travaillant avec des patrons tous les 15 jours.
D'accord, en faisant des stages.
Voilà, en faisant des stages. J'étais payé par le patron, j'allais à l'école, etc. Non, ici, ça ne marche pas comme ça. Tu vas à l'école pendant 6 mois. Donc tu apprends tout ce que j'ai appris en 3 ans, tu l'apprends en 6 mois. Donc ça va très, très vite.
C'est pas possible.
Et ben, ça l'est, ouais. pour ici. Et à la fin, bah, tu as ton diplôme de chef pâtissier. Donc d'accord. Tu peux te dire que tu es chef pâtissier après 6 mois. Mais si on te demande de faire une tarte aux pommes, tu ne sais pas faire.
D'accord. Donc tu as quoi ? Tu as des bases, mais tu n'as pas.
Voilà, tu apprends les bases très vite. Quoi. Tu sais beaucoup. Okay. Ici aux États-Unis, ils savent faire des sculptures en sucre, des sculptures en chocolat. Mais par contre, faire une pâte sucrée, par exemple, ils ne vont pas y arriver. Ou un éclair au chocolat.
D'accord. C'est aussi une question de culture. Je pense que, encore une fois, c'est des clichés, mais tu parlais tout à l'heure de croissant, de pain au chocolat. On dit pain au chocolat ou chocolatine ?
Pain
au chocolat, religieuse, tous ces trucs-là. Les Américains, on parle plutôt muffin, donut. Pour ceux qui connaissent un peu les États-Unis, on parle de trucs très, très sucrés, très, assez lourds. Encore une fois, je n'aime pas faire de généralité, mais le français, l'Américain de base n'est pas pâtisserie.
Il n'est pas foodie. Voilà. Non plus, c'est pas quelqu'un qui va manger, c'est pas quelqu'un qui cuisine. Mm-hmm. C'est pour ça que la restauration marche énormément ici, hein, dans ce pays, parce que les gens vont travailler, reviennent du travail, ils vont aller manger au restaurant. Ils savent pas ouvrir un frigo ou cuisiner, quoi. Vraiment, c'est pas du tout dans la culture. Nous, on a une culture de, on fait le jardinage à la maison, on va chercher les patates et voilà, ça se passe comme ça. Mm-hmm. C'est une culture différente, complètement.
Est-ce que, encore une fois, c'est très cliché, mais c'est l'histoire du pâtissier qui veut venir aux États-Unis et être millionnaire en vendant des pâtisseries à la française, c'est pas très ça, non ? Il faut savoir s'adapter aussi.
Oui, c'est pas très ça. Non, ça, c'est vraiment le cliché. Il faut quand même travailler. Il y a quand même des grosses semaines, des grosses heures de travail derrière tout ça. Il faut bosser, quoi.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pas imposer des produits aux États-Unis auxquels ils ne sont pas habitués.
Tout à fait.
Je veux dire, on parle de croissants, même si tu fais les plus beaux croissants, les plus bons croissants du monde ou de France, tu vas en vendre 300 milliards aux États-Unis.
Correct. Ouais, il faut s'adapter. Il faut s'adapter au flavor, au goût. Le goût est très important. Il y a des goûts, moi, quand je suis arrivé aux États-Unis, que je ne connaissais pas. Hein. Il y a des goûts comme ils appellent ça le eggnog ou les choses comme ça. C'est des choses qu'en France, on ne connaît pas. Quoi. Mm-hmm. On ne connaît pas du tout. Donc, c'est vrai qu'au début, ça a été dur. Ça a été dur, mais il faut s'adapter, comme tu dis, Stéphane. Il faut s'adapter. C'est vraiment important. Quoi. Vraiment, vraiment
donc,
important.
Donc, eggnog, qu'est-ce qu'il y a d'autre ?
Il y a eggnog, il y a cinnamon.
Ils mettent beaucoup de cannelle.
Voilà,
ouais,
la cannelle, c'est incroyable. Ils en mettent partout.
alors que toi, t'en...
Bon, je commence à en mettre un peu.
Non, mais
bon.
Toi, quand t'étais en France, tu mettais de la cannelle ?
Non, on en mettait très, très rarement. On n'en utilise pas beaucoup de la cannelle en France. Mmh. Ils mettent beaucoup de cannelle, ils mettent beaucoup de menthe. Ils aiment beaucoup peppermint, les choses comme ça. Et aussi, quelque chose qu'ils mangent beaucoup, c'est les caramels avec du whisky. Avec, ça, ils adorent.
Ah ouais.
Ça, j'ai jamais compris parce que c'est quand même pas super. Pas très gourmand, on va dire.
T'as eu des frustrations à ce propos ?
Beaucoup.
Ou de dire, ça cartonne en France, mais j'en ai pas vendu la moitié aux États-Unis. Ça doit être frustrant, non, de se dire.
Ouais, j'ai eu beaucoup de frustration, mais pas par rapport,
pas dans ce sens-là.
Pas dans ce sens-là, dans l'autre sens. Je pense que j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus me voir en me disant, on adore ce que tu fais, on voudrait goûter ta pâtisserie. Est-ce que tu pourrais nous faire ça pour mon anniversaire ou pour Noël ? Et à la fin de compte, ils me demandaient des fraises trempées dans le chocolat.
Ah.
Et ça, c'est une frustration en tant que pâtissier parce que bon, tout le monde peut tremper des fraises dans le chocolat, quoi. Mais ils adorent ça.
Mais je suis pâtissier alors.
Voilà.
Donc c'est pas la peine de faire 6 mois. Tu peux faire une demi-heure.
Voilà, exactement.
Le temps d'aller chercher les fraises.
Mais c'est pour ça qu'on se rend compte que c'est la mentalité différente.
D'accord.
Parce que c'est complètement différent. Eux, peut-être qu'ils seraient pas capables de tremper des fraises dans le chocolat.
Ok.
Et c'est quelque chose qu'ils adorent. Et alors que moi, en tant que pâtissier, c'est mon métier. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Quoi.
Non, j'imagine.
Donc voilà, ça, c'était des frustrations qu'il a fallu s'adapter, il a fallu comprendre. Mais maintenant, ça va mieux.
C'est difficile à comprendre au début ?
Difficile, ouais.
Tu tapes la tête contre les murs ou...
Tu rentres à la maison, tu n'es pas content.
Ah ouais. Est-ce que tu essayes de leur faire comprendre ? Est-ce que...
Oui.
Il y a beaucoup d'éducation aussi. Je peux dire qu'on peut introduire des goûts... C'est compliqué, mais...
Non, on peut introduire des goûts, tout à fait.
Parce que dans le restaurant à Washington, j'imagine que... Washington, encore, comme on disait tout à l'heure, c'est une ville très politique, c'est très rural. Donc, il y a...
Européen aussi.
C'est européen, j'allais le dire. Et je veux pas être, maladroit, mais il y a des gens d'éducation, etc., qui viennent. Donc, c'est plus facile de, de leur montrer des choses qu'ils connaissent pas, non?
Tout à fait.
Et je veux juste comparer avec le mec qui habite dans le Midwest au milieu du, je sais pas, du fin fond du Missouri et qui sait même pas où est l'Europe.
Tout à fait.
Et c'est plus facile sur la côte est, non?
Ah oui, beaucoup plus facile, beaucoup plus facile. On peut plus. Bon après, encore une fois, on est à Las Vegas. Mm-hmm. Donc moi, je travaille dans un hôtel. C'est différent encore.
Mm-hmm. Mais, on parlera plus tard à Las Vegas, mais je parlais plutôt
pour
de
les
Washington.
États-Unis. Pour les Washington, ouais, c'est plus facile parce que comme il y a les gens voyagent beaucoup. Mm-hmm. Les gens voyagent beaucoup, ils vont dans le monde, ils vont en Europe. Donc forcément, quand ils reviennent avec ces petits goûts qu'ils ont goûtés et qu'ils veulent retrouver.
Et au restaurant à Washington, c'était quoi le dessert qui cartonnait?
La mousse au chocolat.
Arrête tes conneries.
Si, si. Non, ta préférée.
Ta mousse au chocolat, c'est pas la mousse au chocolat que tout le monde connaît. Il y a des trucs, c'est différent, il faut que tu nous expliques là.
Ah, mais c'est une mousse au chocolat très simple, c'était la recette de ma grand-mère.
D'accord.
Et que ma grand-mère faisait pour nous le dimanche. Quand on venait à la maison, et du coup je l'ai récupéré, je l'ai appelé un jour, j'ai dit mamie, il faut que tu me redonnes la recette. Et c'est vrai que ça fait un carton quoi, les gens adorent quoi. Alors que c'est très facile à faire, hein. Vous pourrez la faire à la maison, je pourrais peut-être même vous donner la recette si vous voulez.
Mais c'est pas secret.
Je pourrais vous la donner.
Donc qu'est-ce qu'il y a dedans qui fait que c'est pas une mousse au chocolat comme les autres?
Il y a du sel.
D'accord.
Déjà il y a de la fleur de sel de France qui est très importante, il y a des œufs, du chocolat, du beurre. Et voilà, c'est tout.
D'accord.
Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de crème, il n'y a rien. C'est vraiment une recette très très simple. Mais les meilleures choses sont faites avec les plus simples ingrédients, j'ai envie de te dire.
D'accord.
Il ne faut pas se casser la tête.
Ah.
Et il faut cuisiner avec amour.
Ah oui, ça c'est
très important.
Ça c'est important. Et c'est peut-être pour ça que les Américains ne comprennent pas trop, parce que c'est trop simple pour eux, non?
Peut-être. C'est possible, tout à fait. Tout à fait.
La mousse au chocolat, il y avait autre chose?
On faisait que des classiques, hein. On faisait beaucoup de classiques français, hein. On faisait les profiteroles, on faisait les crèmes brûlées, les choses comme ça, très très simple.
D'accord.
Très simple.
Okay.
Que moi maintenant, je suis parti sur quelque chose de plus.
D'accord.
Bah,
justement. jolie transition. Comment est arrivé Vegas?
Vegas, j'ai été appelé un jour. J'ai été appelé un jour par un chef qui travaillait chez Joël Robuchon et qui m'a demandé si ça m'intéressait de venir travailler à Las Vegas. Et j'ai sauté sur l'occasion parce que c'était une ville qu'on voulait découvrir. Et pour un pâtissier, c'est un petit peu la ville phare du monde, j'ai envie de dire. Mm-hmm. Travailler dans un grand hôtel, ça a toujours été un rêve. Et du coup, donc voilà, on a sauté sur l'occasion et je suis arrivé en 15 jours. Ça m'a pris vraiment 15 jours à venir ici, à vivre aux États-Unis. Et je travaillais pour Wolfgang Puck.
D'accord. Avant de revenir là-dessus, tu parles de travailler un grand hôtel, c'était un rêve. Il y a pourtant des grands hôtels, je ne sais pas, Dubaï, l'Amérique du Sud, l'Australie. Pourquoi?
La différence avec les hôtels même qu'il y a en France, qu'il y a de très grands hôtels en France, c'est qu'ici.
Monaco.
Ici, on est quand même à 4000, 5000 chambres.
D'accord.
Donc c'est vraiment le massif hôtel où il y a 10 000 employés.
D'accord.
Donc c'est vraiment c'est une usine quoi, c'est une usine.
Okay.
Et ce qui est bien, c'est qu'on peut faire vraiment, on a des gens qui viennent un jour et qui te demandent, je voudrais un gâteau de 3 mètres de haut. Bah pas de souci, on le fait dans 2 jours.
D'accord. Voilà, 3 mètres de haut.
C'est un petit peu ce qui se passe quoi.
D'accord.
C'est Las
Donc
Vegas.
Ça, c'est la démesure un peu de Las Vegas.
Voilà, c'est la démesure.
Donc tu débarques à Las Vegas, t'as déjà des papiers.
Oui.
Tu connais pas grand monde, il faut que tu t'installes. T'as une femme.
J'ai une femme.
Comment ça se passe?
Au début, c'est pas facile. Donc au début, ben, on se rattache aux personnes qu'on travaille avec. Ça se passe comme ça. Et puis petit à petit, ben, on découvre qu'il y a un petit restaurant qui n'est pas loin. Petit restaurant français. On va aller manger là-bas et on fait amitié. Et puis après, ça s'enchaîne. Quoi, hein, mm-hmm. Ça va très vite. Et puis on rend compte qu'il y a plein de Français aussi. Et on est soudés. Quoi. On est vraiment soudés. Quoi.
Quel était ton rôle à ce moment-là dans ce...
Donc, moi, à ce moment-là, j'étais chef pâtissier dans un restaurant.
D'accord.
De la ville. Un seul.
D'accord. Qui était au
César Palace.
Au César Palace.
Au César Palace, voilà.
Donc, tu faisais la même chose qu'à Washington, mais tu le faisais à Vegas cette
fois.
Correct. Donc, dans des proportions plus grandes et
voilà.
plus...
Voilà. Dans D'accord. une dimension, je dirais, 5 fois plus grande. Quoi.
D'accord. Tu faisais combien de couverts? Enfin, il faisait combien de couverts à ce moment-là?
On faisait à peu près 700 couverts par jour.
D'accord.
Donc,
midi et soir.
Total, ça faisait 700 couverts.
D'accord.
Donc, alors, ce qui est énorme.
Ouais,
on ne se rend pas compte.
C'est un chiffre qui ne me parle pas parce que je ne suis pas dans le milieu, mais je pense qu'il y en a qui vont écouter.
France, généralement, un restaurant basique va faire peut-être, je dirais, 50 à 100 couverts.
D'accord.
Je parle du restaurant que tout le monde va
dans le
coin de la ville. Quoi.
Okay. Donc là, on était vraiment dans des proportions Las Vegasiennes.
Démesurées.
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 Mais usine ou quand même.
Non. pas usine. Bon, usine dans le sens où il y a beaucoup de monde dans la cuisine.
Où ça dépote.
Où ça dépote. Ouais. Hein, on peut, je suis allé dans des cuisines où on était 40 quand même. Mm-hmm. Donc, il y a du monde. Mais après, non, non, là, tout ce qui est le menu, très, très bien, quoi. Mm-hmm. Très, très classe, très, très bien. Genre, on mangeait très bien, quoi.
D'accord.
C'était cool.
Chef pâtissier, ça consiste en quoi quand t'es dans la cuisine?
Chef pâtissier, c'est un petit peu le dernier de la ligne.
D'accord.
Ben, c'est ce que les
amis. Tu manges le dessert en dernier aussi, hein.
C'est vrai. Non, mais ça a toujours été. Hein, le pâtissier a toujours été considéré comme celui qui n'a pas réussi à être cuisinier.
C'est vrai.
C'est bon, c'était les ragots d'avant. Ah ouais. Maintenant, les mentalités commencent à changer. Ils se rendent compte qu'en fait, non, on a plus de finesse. Mais non, mais ça s'est très bien passé. Hein. J'avais une équipe, on était 6.
D'accord.
On était 6 pâtissiers à faire tourner le restaurant, donc ce qui est énorme encore pour un restaurant. Et puis bon, ben voilà quoi. Hein, c'était quand il y avait le feu, le coup de feu, ben fallait taper dedans. Hein.
Donc c'est toi le boss.
C'est moi le boss, c'est moi qui dirige.
Tu diriges. Est-ce qu'à ce moment-là, tu fais encore des desserts?
Plus vraiment.
Je suis plus
dans la.
T'es plus
le management.
Dans le chef d'orchestre.
Tout à fait.
Qui gère de façon. Est-ce que responsable aussi, encore une fois, j'y connais rien, mais ceux qui travaillent dans la restauration vont certainement comprendre pourquoi je pose la question. C'est toi qui envoyais les desserts, c'est toi qui dis bah, ok, la table machin elle est prête, il me faut une mousse au chocolat,
c'est ça.
Deux profiteroles et machin.
C'est ça, on d'accord. appelle ça l'expo. Ça s'appelle l'expo.
Ah, merci.
Donc, du coup, c'est-à-dire que je me mets derrière la table, okay. J'ai les pâtissiers qui sont devant moi,
okay.
Et je leur dis voilà, il me faut une mousse au chocolat, une crème brûlée. C'est pas un citron, enfin tous les desserts qu'on a, ils me le mettent sur la table, je regarde, si okay. ça me plaît, on l'envoie au client.
D'accord. Alors je vais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. Tu travailles avec des mecs qui ont un diplôme.
En 6 mois.
En 6 mois. Tu te prends la tête, non?
Très très dur. Très 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 dur. Mais c'est pas, c'est comme on disait tout à l'heure, hein, c'est une, il faut leur montrer, il faut leur expliquer, il faut c'est du management quoi.
D'accord.
Mon métier n'est plus vraiment le pâtissier. Qui travaille dans une boulangerie, c'est vraiment de comme tu dis Stéphane, le chef d'orchestre.
Ouais.
Tout simplement. Je montre.
Ouais, mais bon.
Faire.
Quand t'es chef d'orchestre avec des gens qui savent jouer de la musique, c'est top. Quand t'es chef d'orchestre avec des mecs qui tapent sur des bambous,
c'est dur au début.
C'est plus compliqué,
puis,
non?
C'est dur au début et puis après on leur montre. On leur explique, on répète l'entraînement.
Ils sont demandeurs de ça?
Ils sont demandeurs.
Ouais.
Ils sont demandeurs. Ils aiment beaucoup travailler avec un Français par exemple.
Bien sûr.
C'est très demandé parce
que ça leur donne de l'expérience.
Voilà, exactement.
Ils apprennent vite, ils sont.
Tout le monde est différent.
Tout le monde est différent. Encore une fois, on peut pas généraliser. L'américain moyen.
Mais,
non,
la plupart.
N'existe pas.
La plupart, ils essaient de se donner à fond. Hein.
Mm-hmm.
Ils ont envie d'apprendre des nouvelles techniques, des nouvelles choses comme ça. Quand ils vont quelque part d'autre, ils peuvent reproduire.
Et donc, dans des grosses soirées, tu sortais combien de desserts?
Dans une grosse soirée, on sortait 250 desserts.
D'accord.
Donc, on faisait à peu près 25%. De la clientèle qui commande un dessert, donc ce qui est énorme, hein, ce qui est vraiment beaucoup. Hein.
Mm-hmm. Pour les gens qui savent pas, donc Spago est dans la centre commercial du César Palace.
Il était dans le centre commercial du César Palace.
Il existe toujours?
Ils ont fermé il y a 2 ans et on a réouvert au Bellagio.
D'accord. Okay.
On a réouvert sur les fontaines du Bellagio, un gros restaurant, plus moderne.
Ok.
Et puis pareil, hein, ça cartonnait.
Quand t'es arrivé à Las Vegas par rapport à ce que tu faisais à Washington, t'as été un peu déstabilisé ou tout s'est plutôt bien passé au niveau du boulot?
J'ai été déstabilisé par le grandiose.
D'accord.
Par le grandiose et par les demandes, quoi. Les demandes, comme je disais tout à l'heure, hein, mm-hmm. un client qui vient qui demande un gâteau de 3 mètres, ça j'avais jamais fait ça.
Mm-hmm.
Donc ça, ouais, il y a des demandes folles. Et puis bah voilà, j'étais impressionné partout quoi. Mmh. C'était vraiment, et c'était un rêve. Après je suis arrivé à Las Vegas, c'est marrant qu'on dise ça, mais je disais à ma femme, tu vois, un jour j'espère que je serai le chef du Bellagio.
D'accord.
Et petit à petit bah, j'ai réussi à faire ma trace. Mais c'est fou quoi, ça demandait du travail et
justement la façon de travailler par rapport à la France, encore une fois je vais faire des allers-retours entre les deux pays, elles sont vraiment différentes. Où il y a quand même des similarités.
Non, la façon de travailler est différente. Ouais. La façon de travailler est différente dans le sens où on part pas tant que le boulot est pas fini. Enfin, je sais pas comment l'expliquer vraiment, mais c'est une autre mentalité en fait. Mm-hmm. C'est vraiment une mentalité différente. Bon après, on n'est pas aussi pointilleux qu'en France non plus. Genre, c'est vrai que les Américains bâclent beaucoup le travail,
mm-hmm.
donc ça faut les reprendre dessus. Mais voilà, ça n'a pas été Non, c'est bien passé.
D'accord. De Spago, c'est quoi la suite ?
Donc, Spago, après Spago, donc du coup, parce que je reviens sur ça. Spago, j'ai eu un jour le Bellagio qui m'a demandé de venir dans le bureau, alors que le restaurant était dans le Bellagio déjà, mais je faisais partie du restaurant.
Okay. Donc et le Bellagio, c'est l'hôtel.
L'hôtel phare de Las Vegas avec les fontaines qui sont devant, qui se balancent.
Qu'il y a dans le film Ocean Eleven.
Voilà,
pour,
exactement.
Pour que les gens se remettent bien dans le truc.
Exactement. Et donc, du coup, ben, voilà, le Bellagio m'a contacté et je suis venu un jour dans leur bureau et il m'a demandé voilà, est-ce que ça t'intéresserait de venir travailler pour nous ? Et j'ai.
Et là, tu t'es dit putain, mon rêve.
Voilà, exactement. J'ai dit putain, ça arrive. Et j'ai dit bah oui. Donc, j'ai sauté sur l'occasion et je me suis lancé au Bellagio.
Okay. Quoi.
Donc, après, c'était plus un restaurant, mais c'était 17 restaurants.
Ah
17 restaurants et une équipe de 75 personnes.
D'accord.
Et des banquets de 4000 personnes, c'était encore démesuré. Quoi.
D'accord. C'était donc, fou. C'était pas seulement Bellagio, c'était le groupe derrière ou...
Que l'hôtel Le Bellagio.
Et il y a 17 restaurants dans cet hôtel.
Dans cet hôtel, il y a 17 restaurants.
Et tu étais responsable de toutes les pâtisseries de tous ces hôtels.
Voilà, on était responsable de tout l'hôtel en fait. Tout ce qui était de pâtisserie sortait par nous. On avait une cuisine centrale en bas. Que de pâtisserie,
okay.
Et on faisait tout pour l'hôtel.
Donc il n'y avait pas un riz au lait qui sortait sans que tu le saches.
Voilà.
Ok, enfin un riz au lait c'est un exemple. Hein.
Ouais, voilà. Pourquoi
en... Je sais pas, vous faites du riz au lait ?
Nous on fait pas de riz au lait, mais je connais un copain qui adore le faire le riz au lait.
Donc sérieusement, il n'y avait pas un dessert qui sortait où tu n'étais pas au courant ?
Voilà, on sortait, tout ce qui sortait je le savais.
D'accord.
Tout.
Est-ce que ça veut dire que tout ce qui sortait, t'avais mis ta patte dessus ou c'est toi qui décidais après, ce qu'il y avait suivant les restaurants ? Parce que 17 restaurants, j'imagine qu'on est, on parle de 17 restaurants différents avec des goûts différents, des atmosphères différentes.
Tout
donc ça, c'est difficile, non ?
C'était difficile, mais on avait des testings.
D'accord.
On faisait des testings à peu près toutes les saisons. Donc on changeait les menus de pâtisserie dans tous les restaurants toutes les saisons, mais bon après derrière moi on avait une équipe aussi. Hein. Moi j'avais des Français qui travaillaient avec moi, on avait des chefs, il y avait des sous-chefs, et après il y avait tout ce qui était les pâtissiers. Donc c'était une grosse équipe, une grosse structure, et on s'en sortait pas mal quoi.
Mmh.
On s'en sortait bien.
Là c'était encore plus, t'étais encore plus le chef d'orchestre là, je veux dire. Tu touchais encore moins au sucre ?
Là, je touchais vraiment plus à grand chose, à part le clavier d'ordinateur.
Ah ouais ?
Là, on touche vraiment plus à rien, quoi. C'est vrai que c'est une autre dimension, quoi. Mmh. C'est une autre dimension. On laisse les gens faire, on leur apprend et ils produisent, quoi, tout simplement.
Mais ça, j'ai du mal à comprendre.
C'est pas facile, c'est vrai.
Ouais.
Il faudrait le voir pour le comprendre parce que on avait des banquets de, comme je disais, de 4000 personnes qui mangeaient le matin. Le midi et le soir. Donc, du coup, il fallait qu'on prépare les croissants pour le matin, toute la viennoiserie pour le matin. Après le midi, il fallait qu'ils mangent aussi de la pâtisserie. Et le soir aussi, il fallait qu'ils mangent de la pâtisserie. Donc, c'était vraiment, vraiment des folies. Quoi. On sortait, je crois, si je m'en rappelle bien, on sortait à peu près 15 000 pâtisseries par jour.
Waouh!
Pour tout ce qui est restaurant, les magasins, parce qu'il y a des magasins aussi, il y a des petits cafés, il y a des choses comme ça dans les hôtels. Et tout ce qui est banquet, room service, voilà, tout ça. On sortait à peu près 15 000 pièces par jour.
Waouh! Et de tout.
De tout. Du croissant, du brownie, de la crème brûlée, des desserts un peu plus élégants, de tout. Tout. Des chocolats, tout.
Il y a du gâchis ?
Beaucoup de gâchis. Mmh. Malheureusement, il y a énormément de gâchis.
Qu'est-ce que ça devient tout ça ?
Ça part. Bon, après, non, ça dépend. Ça dépend. Mais généralement, on essaye quand même de donner aux. On essaye d'aider les gens qui sont dans le besoin à Las Vegas. Et il y a un groupe qui s'appelle Triple Square, qu'on appelle. Et ils viennent chercher les restes entre guillemets, enfin ce qui n'a pas été utilisé.
D'accord.
Et pour donner aux sans-abri et
c'est bien.
Aux gens qui n'ont pas les moyens sur Las Vegas. Quoi. Ouais. Donc ça c'est bien, ça c'était très bien.
C'est le groupe Bellagio qui fait ça ou tout le monde
le fait ? C'est tout le monde. Tout Las Vegas, généralement tous les hôtels se font ça, parce que les pertes sont colossales. Hein. Les pertes sont, il faudrait pas le voir.
Ah ouais.
Non c'est énorme, c'est énorme. Je me rappelle d'une année, on avait fait des chocolats, des pièces en chocolat, on avait fait 3000 pièces en chocolat. Donc, une petite pièce en chocolat de 30 cm pour un groupe qui venait à Las Vegas. Et en fait, il fallait que la pièce en chocolat soit dans leur chambre quand ils arrivent. Et donc, on a mis toutes les 3000 pièces dans les chambres. Et en fin de compte, les gens, ils ont regardé la pièce, ils ont fait une photo de la pièce, ils ont mangé le petit bonbon qui était dessus, mais c'est tout. Et donc, la pièce en chocolat, à la fin, elle part à la poubelle.
Ah.
Et on parle de tonnes et de tonnes de chocolat.
Waouh!
Donc ça, c'est un peu ce qui est démesuré à Las Vegas. Quoi.
Mm-hmm.
C'est vraiment ce qui est incroyable à Las Vegas. On dépense pour... En fait, on fait plaisir aux guests, quoi. D'accord. Vraiment, c'est ce qui est le plus important.
Et cette pièce de chocolat, donc toi, tu fais la pièce numéro 1 et derrière, mes personnels
les reproduisent. Ouais.
D'accord.
Tout à fait. On crée, je suis dans la création, je crée la pièce et après, ils reproduisent.
D'accord. Donc, et ça, après, c'est quand même super intéressant quand même. T'arrives à avoir cette créativité malgré le fait que tu passes ton temps devant l'ordinateur.
Ouais, j'essaye parce que sinon on perdrait la main. Hein. Ouais. Sinon,
et comment ça se crée techniquement une pièce en chocolat? Comment tu même une pièce toute. Est-ce que tu prends un bout de papier, tu dessines et puis machin? Est-ce que tu as sur ordinateur? Est-ce que tu fais un truc virtuel? Comment ça se passe de A à Z?
C'est exactement ça en fait. Ce qui se passe, c'est qu'on a. Je pourrais être chocolatier. Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on nous donne un thème généralement. Okay. On dit voilà, c'est sur le thème de la musique par exemple. Et après, on appelle ça du brainstorming. Hein. C'est genre, on regarde tout ce qu'il y a sur la musique.
C'est qui on ?
C'est moi et puis mes sous-chefs, par exemple. Tu vois, genre, on s'entraide. Hein.
Ouais.
Et une fois qu'on a trouvé ce qui nous plaît, on la dessine. Et ensuite, on en fait un prototype, tout simplement. Et après, on va la montrer à l'échelle qui est plus haute, qui est les présidents des hôtels et les choses comme ça. Et ils approuvent ou pas.
D'accord.
Et s'ils approuvent, on lance la production. S'ils approuvent pas, on recommence.
Okay.
Et des fois, ça met très longtemps.
Qu'est-ce qui est pas approuvé?
Si c'est pas... Vous savez, des fois, la couleur le plaît pas.
D'accord.
Ça peut être la couleur, ça peut être...
C'est vachement subjectif, en fin de compte.
Ouais. C'est
parce
à vrai dire...
c'est même plus une question de goût. Est-ce que le goût quand même ou c'est que visuel?
C'est que du visuel.
Ah ouais?
C'est que du visuel. La pièce en chocolat, c'est que du visuel. Si personne va manger une pièce en chocolat.
Tu déconnes.
Mais malheureusement non.
Tu fais approuver des trucs que les mecs mettent même pas la cuillère dedans.
Non. Malheureusement non. C'est vraiment pour le show. C'est plus pour le wow.
Donc tu peux faire une pièce chocolat à base de Nesquik ou je sais pas de chocolat de merde et ça va passer.
Voilà, ça va passer.
Ah merde.
Tu peux même des fois ça arrive. Hein, ça c'est le petit secret mais faut pas le dire. Mais des fois on met du plastique dedans hein, pour que ça tienne. Pour vous dire que personne les mange.
On met du plâtre.
Non, mais c'est vrai que c'est vraiment pour que pour le show. Hein. C'est que pour le show.
D'accord.
C'est pas comme on les mange pas quoi.
Ouais. Pour ça c'est Vegas hein. T'avais
mais
jamais,
c'est Vegas ouais.
T'avais c'est jamais fait
après
ça
j'avais fait déjà des pièces même en France quand j'étais en chocolaterie et généralement on les mangeait pas non plus. J'avais fait des pièces pour les casinos en France, des petits casinos de sur la côte par exemple, des roulettes, des machines à sous, mais les gens c'était vraiment pour le show aussi quoi. Mais ça arrive très très rarement.
Tu sais que moi enfin passionné c'était un grand mot mais passionné de chocolat, j'ai envie de pleurer là de ce que tu es en train de me dire.
Et je sais, la prochaine fois on gardera les pièces.
Parce que 3000 pièces de chocolat qui partent à la poubelle, j'ai l'arme à l'œil. Hein.
Ouais, c'est clair, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Surtout, ce qui fait mal au cœur, c'est les heures de travail.
Ouais,
c'est les heures de travail qu'il y a derrière pour faire une pièce en chocolat qui fait 2 mètres de haut. Il faut bien 20 heures de travail dessus.
Hein. Wow.
Donc, forcément, ça fait mal au cœur quand on la présente ou qu'elle casse. Mm-hmm. Parce que ça arrive souvent qu'elle casse. Qu'on la présente et puis que le client prend une photo, il est content et puis voilà, ça finit à la poubelle quoi. Donc ça c'est un petit peu ce qui est difficile à...
Le chocolat vient d'où? Est-ce que,
De France.
Ah ouais?
Ah oui, le chocolat de France, toujours,
ah
toujours,
ouais
toujours, on est les meilleurs pour ça.
C'est vrai.
Donc le chocolat, non, hein. Actuellement le chocolat ne vient pas de France, mais la compagnie vient de France.
D'accord.
Le chocolat vient des pays africains,
oui, bien sûr,
ou du Guatemala, ou de l'Équateur.
La noix de coco, enfin, ça s'appelle une noix.
C'est une cabosse.
Une cabosse,
on appelle ça. C'est d'accord. Un peu le même principe. C'est des fèves, en fait.
D'accord.
C'est des petites graines qu'on mélange, qu'on mixe et que ça devient du chocolat. Il y a tout un process.
D'accord. Donc le process est fait en France et...
Le process est fait en France, oui, généralement.
Et les Américains ne sont pas capables de faire du chocolat?
Il n'y a pas vraiment. Maintenant, il y a deux gros leaders sur le marché mondial et du coup.
Donc, c'est qui ces leaders?
C'est Valrhona
okay.
et Cacao Barry.
Okay.
C'est vraiment les deux gros leaders. Du coup, les autres n'ont plus trop la place pour, à vrai dire.
Mm-hmm.
Et c'est pour ça que ça a toujours été comme ça. Quoi. Il y a toujours des petits artisans qui font du chocolat, qui vendent du chocolat. Mais pour des gros groupes comme on a sur le strip. À Las Vegas, on ne peut pas se permettre, on est obligé de prendre des gros volumes. Quoi. Mmh.
Tu parlais tout à l'heure d'une pièce de 3 mètres, c'est la plus grosse chose qu'on t'ait demandé ou il y a eu d'autres réalisations un peu folles?
J'ai fait une réalisation un peu folle, j'ai fait un croque-en-bouche. Donc une pièce montée.
D'accord.
De 1500 choux.
Ok.
Donc ça faisait, ça faisait 3 mètres. Ouais.
Mais
ça,
1500 choux.
Ouais.
Et il faut que tu me dises un mariage traditionnel en France, il y a combien de choux?
Un mariage traditionnel en France, on va dire qu'il y a 200 choux.
Ah oui, là je me rends compte maintenant.
Donc oui, c'était gros. Bah, ça nous a pris toute la nuit parce que il fallait que le restaurant ferme à minuit et que le restaurant réouvre à 9h. Mm-hmm. Donc il fallait qu'on fasse la pièce avant la réouverture.
Waouh.
Et qu'elle soit au milieu du restaurant.
Oh.
Donc on a passé la nuit à coller et remplir les choux.
Donc rassure-moi, 1500 choux, il y avait 1500 invités, tout le monde a eu droit à un chou quand même.
Tout le monde a eu droit à un chou. C'était okay. Deux choux par personne.
il n'y en avait plus rien. Ils ont tout fini, j'espère.
Ils ont tout fini, il n'y avait pas assez.
t'en fais des mariages, non ?
Non, on fait beaucoup d'anniversaires. On a fait des anniversaires pour des célébrités sur Las Vegas, qu'il y a beaucoup.
Voilà. Des noms.
On a fait l'album de Jennifer Lopez, la sortie de l'album de Jennifer Lopez, donc qui venait, qui commandait des gâteaux, plein de pâtisseries, quoi, parce qu'elle adore ça. Et on a fait, qu'est-ce qu'on a fait ? J'ai vu beaucoup d'acteurs, quoi, les joueurs des Golden Knights à Las Vegas.
Le hockey,
voilà, qui venait aussi faire des gâteaux d'anniversaire et tout ça. Quoi. Mais c'est génial, quoi. On se rend compte qu'on rencontre des gens que jamais on s'imaginerait un jour pouvoir les rencontrer, quoi.
Parce qu'en Vendée, Jennifer Lopez, tu l'as jamais vu ?
Mais non, je l'avais invité à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, mais elle a jamais voulu. non, c'est super, quoi. C'est vrai que c'est, enfin, moi, ça a été un rêve qui devient réalité, quoi, de rencontrer tous ces gens-là.
Bon, je suis désolé, Romain, mais ça, c'était avant.
Voilà.
On peut se le dire maintenant. Je vois pas pourquoi ça te fait rire.
Bah non, ça me fait pas rire.
Vegas, depuis le 17 mars, les casinos sont fermés, les hôtels sont fermés, tout est fermé. On n'est pas en confinement, comme le confinement peut l'être en France, puisqu'on peut encore sortir chez nous, il n'y a pas les flics dans les rues, etc., etc. Mais Vegas, c'est fermé du jour au lendemain.
Vegas est mort, ouais.
Et toi aussi.
Voilà. Vegas, c'est sur l'arrêt, quoi. Mm-hmm. C'est incroyable. C'est du jamais vu. De toute façon, Vegas n'a jamais fermé un hôtel. Donc, c'est du 24 heures sur 24, normalement. Et là, ça a fermé. Ça fait maintenant un mois, ouais, comme tu dis. Un mois que c'est fermé. Donc, on attend. On prend notre mal en patience. Et puis, en espérant que ça rouvre très rapidement, dans les bonnes conditions, bien sûr. Mm-hmm. Dans les bonnes conditions. Et c'est terrible. C'est terrible. On s'occupe de mon jardin, quoi.
Concrètement, t'as pas perdu ton boulot.
Donc
t'es au chômage partiel. C'est la meilleure traduction qu'on pourrait avoir.
Tout à fait. Je pense voilà, c'est ça.
C'est-à-dire que tu vas plus au boulot parce que on peut plus de toute façon. Tous les casinos sont fermés, donc t'as plus accès. Mais tu continues malgré ce que les gens pourraient croire. Tu continues à toucher un peu d'argent.
Voilà, je touche toujours de l'argent. Je touche la moitié de mon salaire.
D'accord.
Toujours par les casinos, mon employé me paye toujours la moitié de mon salaire.
Ok. Donc ça, encore une fois, on peut pas comparer le chômage ici et le chômage aux États-Unis. Mais malgré ce qu'on pourrait croire, il y a quand même du chômage. Ça existe, le chômage. Enfin, même si, comme tu dis, t'as eu la moitié tout de suite.
Ouais,
t'as pas été dégressif, t'as non, pas eu 100% non. Comme chez nous, et après t'as 80, 50, machin.
Non, pas 5... du tout. Non, y a toujours... pour l'instant, c'est comme tu dis, c'est pas ce qu'on croit aux États-Unis. Il y a quand même.
Un peu d'aide.
Il y a quand même de l'aide. Hein.
Okay.
Je sais qu'il y a eu un stimulus check qui a été offert pour les gens. Enfin, voilà, il y a de l'aide, quoi.
Okay.
Parce que bon, à la fin de la journée, on est tous dans le même paquet. Hein. Si on peut pas payer. C'est le bordel, quoi. Mmh.
Donc ce chômage entre guillemets à 50%, tu touches combien
jusqu'à temps qu'on rouvre.
D'accord.
Jusqu'à temps que la compagnie rouvre.
Donc il n'y a pas de mauvaise surprise.
Normalement, il n'y a pas de mauvaise surprise. Hein. Normalement, on croise les doigts, mais normalement, normalement, ça continue comme ça jusqu'à la fin, quoi.
Comment tu le vis ?
Je suis content. Au début, j'étais c'est un peu méchant ce que je vais dire, mais bon, c'est vrai que j'étais content parce que bon, je pouvais me retrouver plus avec ma famille. J'ai quand même eu de la chance que voilà, j'ai un petit garçon, donc du coup maintenant je peux le voir grandir un peu plus. Parce que dans mon métier, c'est des horaires qui sont difficiles, je voyage, c'est pas facile. Donc là maintenant je peux rester un peu, mais bon, ça commence à être long, quoi. Hein. Ça fait un mois, on n'a pas de nouvelles, on ne sait pas quand est-ce que ça va ouvrir, donc ça commence à être très long. Très très long.
Comme tu disais, on n'avait jamais vu des casinos qui ferment. on a été avec notre pote Vince. On a été un soir à Vegas et on s'est rendu compte de cette la ville fantôme.
C'est incroyable.
Ça t'a marqué, ça ?
Ça m'a beaucoup marqué. ça m'a beaucoup marqué. Surtout qui, moi qui travaille sur le strip, moi qui va tous les jours, je vais sur le strip, je me gare sur le strip, je marche sur le strip et je vois des milliers et des milliers de personnes. Et là, on se rend compte qu'il n'y a pas une personne. On était vraiment tous les trois, entre guillemets. Hein, on était tous les trois à voir un petit peu ce qui se passe parce qu'on était curieux. Et, non, c'est impressionnant. Hein, c'est impressionnant. Mais je pense que dans toutes les villes de France, c'est comme ça. Nous, c'est plus particulier parce que nous, c'est une ville qui ne s'arrête jamais. Donc, c'est vrai que pour nous, ça nous fait bizarre. Mais non, c'est terrible. On espère que ça va revenir très vite. On espère que ça va revenir très vite et qu'on va tous pouvoir vous accueillir ici très bientôt.
Autour de toi, il y a des situations un peu plus compliquées. Il y a des gens qui ne touchent pas d'argent, qui ne touchent pas le chômage, etc.
Ouais, il y en a beaucoup.
La restauration, la restauration, évidemment, les casinos, etc., ça fait mal pour tout le monde. Ça aussi, c'est difficile de voir des amis, des gens autour de nous qui perdent leur boulot et qui commencent. Alors je dis qu'ils commencent à être dans la merde parce que maintenant, au bout d'un mois, tu tapes dans les réserves, etc. Et puis au bout d'un mois, tu te dis merde, qu'est-ce que je vais devenir, quoi.
Ouais, là, il y en a beaucoup. Hein. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été licenciés, énormément de gens qui ont été licenciés dans Las Vegas. Donc, bon, comme tu dis, hein, des amis, des pères de famille, des mères de famille. Enfin, ils ont des aides. Pour l'instant, ça va. Comme on a dit, le gouvernement a quand même débloqué pas mal d'argent et du coup ils ont des aides, mais bon, je pense que c'est long pour eux aussi, quoi. C'est long et je pense qu'il y a le pire de tout, c'est qu'on n'a pas de réponse, en fait. On n'a pas de date vraiment. On nous dit un jour on rouvre le 15 mai et la semaine d'après on nous dit ah non, c'est repoussé au 30 mai. Et la semaine d'après c'est repoussé au 15 juin. Enfin, on n'en sait rien, quoi. Et je pense que c'est ça qui est le plus difficile dans la tête des gens, en fait. Si on avait tous une date, Le temps passerait plus vite. On dirait bon ben voilà, telle date, on retourne au boulot et puis voilà. Mais là, on n'a pas de date, quoi. Donc c'est ce qui est le plus dur.
Tu crois que, enfin, c'est une question idiote et je pense connaître la réponse. Il y a un avant Vegas et un après Vegas.
Complètement. Il y aura beaucoup plus de restrictions, je pense, par rapport à tout ce qui est hygiène, hein, tout ce qui est sanitaire. Il y aura beaucoup plus d'hygiène. Ça sera pas pareil, quoi. Ça sera pas pareil, c'est sûr. Mais ça sera pas que Vegas. Ça sera tout le monde, je pense. Il y aura un après Covid et un avant Covid, quoi.
Dans tes cuisines, tu penses qu'il y aura une distance sociale entre tes
C'est marrant, c'est une question qu'on s'est posée. C'est exactement la question qu'on s'est posée. Je sais pas du tout encore. On n'a pas de réponse.
Les cuisines, tu disais tout à l'heure, t'as déjà vu des cuisines avec 40 personnes. Ouais. Je veux dire, je connais un peu parce que mon père est cuisinier et chef. Et je l'ai vu qu'au petit dans des cuisines, vous êtes quand même tous les uns sur les autres.
Ah ouais, non, c'est vrai.
C'est quoi la solution pour... Et en plus, dans un domaine sanitaire où il faut faire attention, c'est de la bouffe, tu peux transmettre des microbes via la bouffe. Ça aussi, c'est l'après-Vegas. Il va falloir penser à ça, même.
Tout à fait. Mais je sais que déjà qu'il y a déjà des mesures qui sont mises en place dans le sens où maintenant, si on rentre dans un casino, parce qu'il y a toujours des gens qui travaillent dans les casinos, la sécurité, les choses comme ça. Et je sais que depuis lundi, les gens qui rentrent dans le casino se font tester.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il y a la température qui est prise.
D'accord.
Et ils doivent avoir des masques, ils doivent signer des papiers, savoir s'ils ont des symptômes, des choses comme ça. Et je pense que ça sera comme ça pareil dans les restaurants maintenant. Ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir rentrer et se faire prendre la température.
Oui, d'accord. Mais une fois rentré dans ta cuisine, vous êtes quand même
mais
les
après,
uns sur les autres. Vous faites comment ?
Mais après, je pense que si on
est... Est-ce que tu vas garder... Tu disais, en tant que chef d'orchestre, tu vas être obligé de dire aux gens avec qui tu travailles, écoutez les gars, la table n'est pas très grande, mais est-ce que je mets deux pâtissiers sur une table plutôt que trois ? Est-ce que tu as pensé à ça déjà ?
Non, on n'a pas. J'y ai pas vraiment pensé, on n'a pas vraiment envie d'y penser. Mais il faut y penser, non, il faudra y penser.
Romain, à un moment, il va falloir sortir la tête de l'eau, non ?
Non, mais tout à fait. Mais on a reçu, hein, comme je vous dis, on a reçu déjà des guides en nous disant toutes les précautions qu'il y avait à prendre. Bon, après, on sait très bien qu'on va devoir ouvrir à Las Vegas avec un masque et des gants. Hein.
D'accord.
Ça veut dire les restaurants, les serveurs, les cuisiniers auront des gants et des masques.
Tes pâtissiers travaillent avec des gants, non ?
On travaille avec des gants.
Ouais. Déjà avant ?
Ouais. On travaille plus avec des gants ici qu'en France.
D'accord.
Par rapport à l'hygiène.
D'accord.
Mais
les gants, la toque, il n'y avait rien, il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de.
Non, il y avait. Le personnel a toujours une toque.
Okay.
Mais le chef n'a pas de toque généralement.
D'accord.
Le chef est un petit peu. Parce que comme on en revient, il n'est pas vraiment dans la cuisine.
Oui, oui, bien sûr.
C'est, dans le maître, c'est le maître d'hôtel.
Donc ça, c'est l'après-Vegas.
Donc l'après-Vegas, ouais, ça va être...
obligé de penser à tout ça quand même. Hein.
Ouais. Et, ouais, ouais, et puis ça commence à nous poser des questions. Hein. On se commence tous à se poser des questions. Ça, on ne sait pas, quoi. C'est, mm-hmm. c'est vraiment, on n'a pas de réponse, quoi. Il faut qu'on ait des réponses. Donc... C'est bien qu'on en parle parce que je pense qu'en France ils n'ont pas de réponse non plus vraiment mmh. et nous on est pareil ici quoi, on est vraiment, faut que vous compreniez qu'on est pareil quoi, on a mmh. vraiment pas de réponse quoi mmh. et c'est ça qui est
personnellement ça, t'es inquiet pour ton boulot, t'es inquiet pour ta famille, t'es inquiet pour ton avenir ou tu restes relativement optimiste?
Oh, je pense que non, moi je suis un peu inquiet, ouais. je vais pas te le cacher, je suis un peu inquiet par mon boulot, je suis un peu inquiet parce que ce que j'essaie de faire comme pâtisserie, peut-être que ça va ne plus intéresser dans le sens où ça vaut un peu plus cher, mm-hmm. j'ai envie de dire.
T'es dans le luxe ?
Ouais, je suis plus dans le luxe, ouais. Donc je pense qu'il va falloir s'adapter. Il va falloir s'adapter avec ce qu'on va avoir après, la demande. Et on verra comment ça va continuer. Je pense, mais ça sera jamais pareil. Je pense que ça sera jamais pareil. Ce qui vient de se passer, c'est tellement incroyable que ça sera jamais comme avant. Quoi. Ou ça mm-hmm. va mettre des années à revenir comme avant. Mm-hmm. Donc on va voir, on va s'adapter. Mais c'est vrai qu'on est inquiet, on est tous inquiets, je pense. Hein.
T'es optimiste de nature ?
Je suis optimiste de nature, normalement. Non, mais je suis optimiste, mais c'est vraiment depuis quelques temps, là. Je vois un petit peu ce qui se passe aux alentours. Voilà, ça commence à m'inquiéter un peu dans le sens où, genre, peut-être falloir retourner au boulot un jour. Hein, mm-hmm. Parce que, bon, ça commence à être long et on voit des grosses compagnies qui commencent à faire, entre guillemets, banqueroute. Hein, tirer la langue, comme... On l'a vu, hein, le Cirque du Soleil, les choses comme ça. Hein. Donc il faut, c'est pas facile.
Mm-hmm. Tu parlais de ton rêve tout à l'heure d'être, de travailler un jour au Bellagio. C'est quoi le prochain ? On a tous des rêves et une fois qu'on les atteint, on se dit putain, il faut que j'en ai un autre. Il y en a d'autres ?
Le prochain, je pense que ça va être d'ouvrir ma propre compagnie. Hein. Mm-hmm. Je pense que ça va être la cerise sur le gâteau, c'est ça. Hein. On a tous envie, hein, au bout d'un moment, je pense, d'avoir sa propre compagnie. Donc je vais te dire, c'est ça.
Voilà, mais et tu ferais quoi ? T'as une idée ?
J'ai une idée. Je peux pas la dévoiler encore. D'accord. Mais oui, j'ai une idée. Ça me trotte la tête. Surtout maintenant que j'ai le temps. J'ai le temps d'y penser.
Les États-Unis, c'est le bon endroit pour faire ce genre de choses ?
Je pense, ouais. Je pense. Ça fait 10 ans que je suis aux États-Unis et maintenant c'est vraiment ma vie, quoi. Ma mm-hmm. vie est là et. Mon petit garçon est américain, donc c'est vrai que non, voilà, on est. Je suis content, quoi. Je suis mm-hmm. content ici. Il y a aucun souci.
Pour finir ce podcast, il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé du tout. Je voudrais l'aborder quand même parce qu'on est quand même sur lebigusser.com. T'as quand même roulé en cross pendant 25 ans.
Oui.
Les gens le savent pas.
Non. Pourtant.
Donc comme Vincent, vous avez sans doute écouté son podcast, notre ami agent immobilier, je t'ai emmené pour la première fois à un supercross. Je suis assez fier de ça.
C'est vrai.
Et j'ai posé la même question à Vincent. Qu'est-ce que t'en as pensé ?
C'était incroyable. C'était un show.
T'es sport mécanique au départ ou pas ?
Je suis sport tout court. J'adore le sport. D'accord. J'aime beaucoup le sport. Je ne pratique pas, mais j'adore le sport. Ouais. J'aime beaucoup le sport et c'était incroyable. On en a pris plein les yeux. Mais d'ailleurs, j'étais avec Vincent. Hein. Ouais. D'ailleurs, je me rappelle de cette journée, on était avec Vincent et on s'est dit, on va aller voir de la motocross. Et non, c'est vraiment. Ça nous a fait aimer. Hein. Ça nous a fait aimer le motocross. Et on a rencontré des pilotes. Et puis, c'est super, quoi. Vraiment, on est fan. Voilà. On est fan. Des fois, on dit, Stéphane, allez, viens, sortir les motos, on va aller faire un tour.
Ça va arriver, ça peut-être.
Il faudrait, hein. Faut qu'on reprenne l'entraînement. Mais non, c'est super. Non, c'est un sport magnifique. C'est un sport qui n'est peut-être pas assez.
Médiatisé,
je dirais. Mm-hmm. Et je pense que ça le deviendra, hein, de plus en plus. Ça le devient, avec les sponsors et tout ça. Mais c'est un show. Hein. Si vous avez l'occasion un jour d'aller voir une rencontre dans un stade aux États-Unis, là, c'est waouh, c'est impressionnant.
Voilà,
impressionnant. C'est un show. C'est un show.
C'est pas mal comme mot de la fin.
Je trouve aussi.
Ouais.
Je pense que c'est sympa.
C'est un peu trop tôt, c'est un peu prématuré, mais je peux te souhaiter bon anniversaire quand même ou pas ?
Tu peux, c'est gentil, ça me fait plaisir. J'attends mon cadeau.
En tout cas, merci beaucoup Romain d'avoir été l'invité de ce podcast numéro 91. On essaye encore une fois chaque semaine avec le confinement de vous faire découvrir des choses différentes, des personnes différentes, des métiers aussi différents. Et je pense que vous pouvez aussi, y a certainement des pâtissiers ou des jeunes qui veulent être pâtissiers et qui sont abonnés à lubigusa.com. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces jeunes-là ?
Foncez dans vos rêves. Surtout, ne relâchez rien. Et si vous avez un rêve, allez jusqu'au bout. Hein.
Et la pâtisserie, la viennoise, enfin la
c'est
viennoiserie.
L'artisanal, j'ai envie de dire l'artisan.
D'accord.
L'artisan en gros. C'est très important.
Ça reste des métiers d'avenir de toute façon.
Je pense.
Ça disparaît. C'est pas des métiers qui peuvent disparaître.
J'ai envie de dire ils peuvent disparaître, mais il faut pas qu'ils disparaissent parce que c'est trop important. Mm-hmm. C'est trop important d'aller chercher la viande chez le petit boucher du coin. C'est trop important d'aller chercher le poisson qui vient des ports de Saint-Gilles par exemple. Mm-hmm. C'est très important. Donc l'artisanat, c'est quelque chose il faut continuer. Continue
à
ça.
T'es fier de cet héritage français que tu portes avec la pâtisserie ?
Très très fier, très très fier. Je suis très fier de mon pays, la France. Je suis très très fier de tout ce qu'on nous apporte en tant que quand on est jeune, toute notre éducation, tout ça, tout notre savoir-faire. Non, il faut continuer comme ça, vraiment continuer comme ça. Quoi. Si vous avez des rêves, allez jusqu'au bout. Et des fois c'est pas facile, des fois on se plante. Comme tout le monde s'est planté, mais il faut continuer. Quoi. Faut continuer. Et puis voilà, c'est pour ça qu'on y arrive. Hein.
La pâtisserie, donc.
La pâtisserie, c'est un beau métier.
Quand on disait qu'il y a un avant et après confinement, après Covid, même l'après, il y aura toujours la pâtisserie.
Je pense que les gens vont toujours vouloir manger un petit bout de chocolat de temps en temps, j'espère.
Merci beaucoup, en tout cas, Romain. Je te souhaite plein de succès pour l'avenir. Encore une fois, même si tu es un poil tôt, on te souhaite un joyeux anniversaire.
C'est gentil, merci beaucoup.
Et les abonnés, lebigusa.com, on se retrouve la semaine prochaine. On va tenter de trouver aussi un autre invité différent. On essaie d'alterner entre personnalités différentes et personnalités du cross. On essaye de le faire. En tout cas, on se bouge le cul hein, parce que comme vous n'avez pas grand-chose à faire, on essaye de vous continuer à vous informer. Merci Romain.
Merci beaucoup le Big. C'est un plaisir d'être interviewé par vous.
Ok.
Merci à tout le monde.
Ok. Ciao ciao. Bye
ciao,
bye.
Ciao. Ciao guys.